Général Ludovic Ngaïfé, bonjour.
Bonjour, monsieur Kouina.
Aujourd'hui, les groupes armés en Centrafrique changent de mode opératoire. La dernière en date, c'est la publication des vidéos et la demande de compensation pour obtenir la libération de leurs otages. Quelle analyse faites-vous de cette situation et comment comprendre aujourd'hui cette dynamique des groupes armés?
Avant toute réponse, je voudrais bien clarifier un peu les choses parce que les gens aiment bien interpréter. Mais je crois qu'il faut quand même tenir informé la population, tenir informé le public. J'interviens ici non pas comme un général en activité, vous le savez très bien, je suis un expert en défense et donc je peux me permettre de parler de certaines questions et que les autres qui sont encore en activité ne pensent pas qu'on est en train de les offusquer ou bien alors qu'on est en train de dire leur couper l'herbe sous les pieds. Il est de leur devoir en principe, je dis bien en principe, d'informer le public. Alors donc, pour répondre à cette question, je pense que le mode opératoire a changé tout simplement parce qu'il y a eu un éclatement. Et ce groupe 3 est constitué en ce moment que des petits groupes qui sont repartis éparpillés un peu partout, mais très certainement avaient encore des liaisons, soit téléphoniques, soit de transmission, et les chefs donnent également des instructions pour orienter leur mode d'action.
Ce changement de mode opératoire intervient après une opération conjointe FACA-MINUSCA contre les positions tenues par les 3R. Est-ce que cela démontre qu'il y a encore un problème de ratissage qui peut justifier aujourd'hui ce changement de mode opératoire?
Je ne sais pas, tout simplement parce que je ne suis pas au courant de quel type d'action la MINUSCA et les FACA sont en train de mettre en œuvre. Mais à ce que je sache, c'est une opération conjointe. Et ce qui suit automatiquement après l'action de force et de masse, normalement, toutes les actions qui vont suivre devaient être toujours coordonnées avec la MINUSCA sur la base des renseignements, sur la base d'une approche tactique plus feutrée pour ne pas exposer les uns et les autres. Il vous souviendra que le gouvernement parle de manque de moyens pour nos militaires. Donc, nos forces en ce moment n'ont pas la capacité d'appréhender ou bien d'anticiper sur ce que va faire l'ennemi à travers les renseignements qui demandent des moyens colossaux. Alors, parler de mode opératoire qui tend vers le terrorisme, bon, ne vous étonnez pas que nous sommes proches des pays qui, en ce moment, subissent les exactions des terroristes. Le terrorisme, c'est quoi? C'est une violence qui a une tendance soit politique, idéologique ou alors religieuse. Alors ici, chez nous, on doit se poser la question de savoir, est-ce politique, est-ce idéologique pour les deux? Moi, je dis non. Et religieuse, je dirais également non, mais ça s'apparente un peu, parce que c'est un groupe, je dirais, ethnique, les Peuls. Cela se dessine avec les derniers accords que Aline Daras et M. Sidiki, en ajoutant Al-Khatim, ont signé pour un rapprochement entre les Peuls. Donc on peut dire que ce n'est pas religieuse, mais tout petit peu ethnique. C'est un groupe ethnique hein, qui se manifeste. Et également pour compléter cette histoire terroriste, n'oubliez pas que dans un passé récent, Israël a décelé un réseau terroriste à partir de N'Djamena, Tchad, dont la République centrafricaine fait partie. Et l'un de ses ressortissants était cité dans le schéma personnel de ce réseau terroriste en Afrique centrale. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'on s'étonne. Mais je n'adhère vraiment pas dans ce... Je n'abonde vraiment pas dans ce sens. Je crois que c'est aussi proche de cela. Alors, il y a 2 ans et demi aujourd'hui, j'ai tenu un discours à Berengo lors de la sortie des jeunes soldats formés par les partenaires russes du gouvernement. J'ai rappelé cela au chef de l'État. J'ai dit, il nous faut anticiper sur les moyens et les modes d'action opératoires contre le terrorisme, à savoir l'entraînement, les équipements, les outils nécessaires. Bon, d'accord qu'il y a l'embargo, mais l'embargo touche ce qui est létal. Mais nous avons en ce moment une large ouverture avec les dérogations qui portent maintenant les calibres des armes qu'on peut avoir à 14 mm 5. C'est largement suffisant. Les actions que les gens mènent sur le terrain, c'est des petits groupes qui agissent. On n'a pas besoin de mettre des 14 mm 5 pour pouvoir combattre ce type d'action, mais c'est l'approche tactique. Et je demanderai encore à nos gouvernants de beaucoup plus prendre en considération les chefs de village, chef de quartier. Voilà, c'est à travers cela qu'on peut circoncire rapidement cette nouvelle forme de menace. Il faut les prendre en main. C'est à eux de regrouper les jeunes de leur localité qui connaissent très bien les zones, les motiver et voilà, les organiser afin qu'on puisse venir à bout de ce changement de mode opératoire. Parce que autrement dit, si on se calfeutre ici dans nos salons à Bangui et autres, on n'a pas d'approche de proximité à travers les chefs de village, les chefs de quartier, il nous sera très 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 difficile de circoncire. C'est une guerre de longue haleine. On va faire cette guerre-là. Il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. La vraie raison dans la zone nord-ouest, c'est une guerre, pâturage et de l'eau. à part peut-être le Cameroun et le Congo, la RDC, mais les autres vont nous faire la guerre par rapport à ça. Il faudrait qu'on comprenne cela. Voilà le vrai fond du problème.
Beaucoup pensent aujourd'hui que la présence de Ali Darassa, qui est en lien avec ses parents Peul du Niger, c'est un signe de califat. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Par anticipation, je dirais oui. Si vous prenez Babalade, qui est un Tchadien, et vous prenez Ali Darassa, qui est un Nigérien, ben les ramifications vont aller très vite. Je suis écœuré qu'on passe tout notre temps à parler politique, à ne pas réunir le Conseil supérieur de la défense pour voir quel genre de schéma préconiser pour le futur. La menace est là. Elle est permanente. Et dernièrement, j'ai écouté le chef de l'État dans un de ses discours en Sango dire que Nasango, je vais vous dire, Tanganazo, ou c'est Ota, Sigia, Mugingombe, Aoso, Atenaoué, Yeniko, Abubaoué. Mais c'est extrêmement scandaleux, ce genre de discours. Mais c'est-à-dire qu'à ce niveau, on ne prend pas la chose au sérieux. La connexion est possible.
La connexion est possible. Entre-temps, nous avons l'accord, l'APPR, qui autorise aujourd'hui les groupes armés à s'ériger en parti politique. Le cap attend, c'est celui de Ali Darassa, qui s'inscrit aujourd'hui sur la liste électorale. Pensez-vous que ce pas que mènent aujourd'hui les groupes armés va demain enrichir leur position au point de déstabiliser la République?
Je ne pense pas pour l'instant qu'on puisse arriver à la déstabilisation de la République. De cette nébuleuse qu'on appelle la Séléka, la source même, à savoir les ténors, sont en train de se ranger du côté de la République. Et je crois que si on les met dans le bon sens vraiment de combattre maintenant, pas de convaincre ceux qui sortent de ce cadre de la République, si on les prend en compte, eux-mêmes ils vont chasser ceux qu'ils ont enrôlés dans leur rang. Ali Darassa s'inscrit sur la liste électorale. Bon, je pense que ça c'est des blagues de mauvais goût. Hein, vraiment des blagues de mauvais goût. Mais on doit dénoncer ça d'une manière forte. Je ne suis pas du tout partant pour les accords de Khartoum, donc je ne veux pas vraiment épiloguer là-dessus. Les preuves sont là. On parle d'accord en ce moment de Khartoum que pour la forme. Il n'y a pas d'accord qui existe.
Beaucoup sont ceux qui pensent que la RCA, à elle seule, ne peut pas sortir de cette situation. Il faut une action concertée au niveau sous-régional. Et ils estiment qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, notre diplomatie souffre d'un problème d'allumage au niveau des commissions tripartites pour prendre en étau les groupes armés. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec l'allure où vont les choses, nous pouvons, par nos moyens sur place, faire face à ce défi?
Oh, vous savez, tous les États ont leurs problèmes internes. Nous avons des accords. Mais je crois que notre sécurité, c'est nous qui devons l'assurer. Dans un premier temps, faisons-le d'abord. Mais si nous sommes dépassés, nous allons demander l'apport des autres. Mais l'apport des autres, c'est à travers la MINUSCA. Certes, vous allez me dire que c'est une mission de paix. Mais pour enrayer cela, bien entendu, il faut l'apport des pays voisins. Mais avec notre ferme volonté, sur tous les plans, volonté nationaliste, volonté patriotique, et maintenant enfin pour parler de volonté politique. Je crois qu'il faudrait que nous-mêmes nous puissions travailler. On a des gens qui ont une manière d'approche, mais malheureusement, on ne prend pas cela en compte. On se dit, c'est notre tour, mais le tour de qui? La République centrafricaine est une. Le tour de qui? Les Centrafricains sont un peuple. Et donc on doit écouter les uns et les autres, et je pense au niveau interne, nous pouvons déjà régler ce problème-là.
Général Gaïpé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Kouéna.